Bonjour à tous, c'est l'heure de Force 7, le magazine d'information régionale de Fréquence Mistral, proposé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Au sommaire, Pôle emploi a accueilli le Google Van et ses ateliers numériques à Manosque. Reportage dans ce magazine. Noyé sur Jabron, l'Amicale des pompiers propose un bal version Moyen-Âge le 13 juillet. Le reportage de Dorian Alessandri pour Force 7. Les trésors des reliques de Ganagobi sont exposés à la cathédrale Saint-Jérôme de Digne. Le reportage d'Odile Frison dans un instant. Le musée marseillais Regard de Provence expose tout l'été une quarantaine de toiles à Gréoux. Le château des Templiers propose un voyage pictural sur 2 siècles en Provence. Le théâtre d'Urance de Château-Arnoux-Saint-Auban a présenté la saison des spectacles 2022-2023, reportage dans ce magazine. Johnny, Sylvie, Dutronc, les Beatles et d'autres, les 60s, s'affichent à la Fondation Carzou à Manosque avec l'exposition de Jean-Marie Perrier. Les outils numériques apportés des demandeurs d'emploi.
L'agence Pôle emploi de Manosque a accueilli le Google Van et ses ateliers numériques. Une journée durant, les demandeurs d'emploi ont pu avoir accès à plusieurs rendez-vous pour comprendre et utiliser Internet ou les réseaux sociaux. Et un atelier spécifique était même proposé aux femmes, souvent en demande face à ces technologies. En parallèle des propositions de Google, des partenaires locaux du service public de l'emploi prodiguaient leurs conseils. Initiative, les petits débrouillards, BGE et Citélab furent aussi de la partie. Je vous propose d'écouter Béatrice Vigani pour Pôle emploi et l'un des animateurs de Google, Pascal Hurtebise. Béatrice Vigani, Pôle emploi lance une opération un petit peu particulière autour de l'outil numérique.
Oui, alors on a la chance de recevoir Google France qui vient animer 3 ateliers aujourd'hui à Pôle emploi, essentiellement tournés vers l'entrepreneuriat et l'Internet, les réseaux sociaux. On a également ajouté des animations autour des casques de réalité virtuelle. Les partenaires de la création d'entreprise reçoivent également les personnes qui ont besoin d'être accompagnées. Et on a le Fab Lab, les petits débrouillards qui montrent un petit peu du matériel numérique.
Il y a un besoin sur le territoire manosquin de ces opérations?
Alors déjà, sur le territoire manosquin, on a un fort taux de création d'entreprises. Donc oui, le besoin existe. Et en plus, tourner vers les outils numériques, c'est vraiment une chance, cette venue pour nous.
Comment sont choisies les personnes ou sont demandées les personnes qui viennent ici dans ce type d'atelier?
On a communiqué, les personnes se sont auto-positionnées sur l'atelier. On a pas mal de personnes d'ailleurs qui se sont positionnées sur les 3 ateliers. Donc c'est vraiment sur la base du volontariat.
Et c'est entièrement gratuit?
Entièrement gratuit.
À vos côtés, Pascal Hurtebise, qui gère cette opération pour Google et les ateliers numériques, qu'est-ce que vous proposez très exactement?
Alors, au niveau des ateliers numériques, on va proposer toutes les thématiques qui sont liées à la recherche d'emploi, avec le numérique, bien sûr, parce qu'on ne va pas se suppléer à Pôle emploi, on vient juste en accompagnement. On va faire aussi toute la partie sécurité, alors que ce soit pour les enfants qui sont sur les réseaux sociaux ou pour la sécurité des entreprises qui se font régulièrement rançonner. On va avoir aussi toute la partie web, donc là, on va guider les gens sur les bonnes pratiques, les bons outils à utiliser pour communiquer d'une façon numérique. On va avoir tout ce qui va être l'analyse de données, tout ce qui va être les réseaux sociaux. Voilà, on va faire un tour d'horizon assez complet donc sur tout ce qui est numérique. On va pas se substituer aux agences, on va juste accompagner les entreprises et leur dire quels sont les outils qui existent et leur donner les premières bases. On va voir aussi toute une partie culture aussi à Google, donc toute la culture liée au numérique.
Vous avez certainement à démystifier, voire désacraliser le numérique par rapport à un public.
Alors ça dépend de l'âge du public. Les trois quarts du temps, dès qu'on n'est pas en dessus des 40 ans, ça pose pas de problème parce qu'ils sont nés avec pour la plupart. Donc, c'est assez simple. Par contre, pour les plus anciens, ouais, des moments, c'est un peu plus compliqué. Mais après, ça dépend tout du caractère des gens, en fait. Hein, c'est fonction de leur curiosité. Moi, je me souviens avoir fait une formation sur Google Docs, une personne qui a 92 ans. On a tous les formats de public et c'est vraiment une volonté de la personne de connaître un peu plus le numérique, sachant qu'aujourd'hui, malheureusement, l'administration met tout sur le numérique, que ce soit les impôts, que ce soit la sécu, enfin voilà. Donc, on va aussi les aider, nous, pour les familiariser avec le numérique. Une bonne pratique pour envoyer des emails, enfin voilà, il y a tout un tas de thématiques pour aider les gens.
Vous êtes ici à Manosque avec plusieurs partenaires, on l'a compris, de Pôle emploi. C'est une manière aussi de travailler ensemble vers un objectif commun.
Google, en l'occurrence, n'a pas spécialement d'objectif avec Pôle emploi. Hein. On va être sollicité par les CCI, par les Pôle emploi, par d'autres associations. Et du coup, on va répondre à leurs demandes, on va mettre à leur disposition tout notre catalogue de formation. Et soit on va le faire en distanciel, donc via des outils appropriés. Sinon, on peut effectivement, comme c'est le cas aujourd'hui, se déplacer avec nos camions et faire du présentiel. Ce qui est pour moi la meilleure solution en termes de prestations, parce qu'on va être beaucoup plus performant en présentiel qu'en distanciel.
Comment êtes-vous devenu animateur d'un atelier numérique pour Google ?
J'ai un parcours professionnel qui est assez chaotique. La circonstance de la vie ont fait qu'il a fallu que je me reconvertisse suite à un grave accident. Et après, donc on a été recruté. Moi, en l'occurrence, j'étais recruté sur LinkedIn. J'ai fait tout le cursus de recrutement. Il y avait 5 entretiens, un exercice pratique. Et donc, j'étais recruté par rapport à ça. Et en l'occurrence, Google donc prend des profils atypiques. Tous mes collègues, quand on a eu un petit peu l'occasion de discuter ensemble, on se rend compte qu'on avait tous été plus ou moins cabossés dans la vie. Forcément un peu empathique envers les autres, parce que quand vous avez pris 2-3 claques dans la vie, vous voyez pas les choses tout à fait de la même façon. Et puis après, en fonction de nos compétences, alors que ce soit la façon de s'exprimer, que ce soit la façon d'être à l'aise avec le public, et les connaissances bien sûr du numérique, ce qui est essentiel. Et donc en fonction de ça, voilà, ils forment leur coach. Donc on a une formation qui dure 2 ou 3 mois, et après effectivement on part sur le terrain et on va faire ce qu'on fait aujourd'hui avec Pôle emploi à Manosque.
Pour rayonner sur quel territoire ?
En l'occurrence, l'atelier de Saint-Étienne, on rayonne sur le territoire PACA, Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté, on a un très très grand secteur.
Noyers-sur-Jabron, le bal des pompiers sera médiéval.
L'amicale des pompiers de Noyers-sur-Jabron renoue avec la tradition. Le bal des pompiers va se dérouler le mercredi 13 juillet dans une ambiance certainement très animée, car les organisateurs, qui ne manquent pas d'imagination, ont choisi le thème du Moyen-Âge pour cette soirée. De nombreux déguisements et accessoires feront partie de la fête, avec un repas spécial terroir et un menu bien fourni, le tout en musique, avec DJ, en soirée et feux d'artifice. C'est un peu moins médiéval, mais tout aussi festif. L'un des organisateurs de ce rendez-vous, Valentin, répond aux questions de Dorian Alessandri.
Je suis sapeur-pompier depuis 6 ans au CIS de Noyers-sur-Jabron et j'ai 21 ans.
Comment vous est venue cette passion pour les pompiers ?
Ben, comme vous l'avez dit, c'est clairement une passion. Moi, j'ai la chance d'avoir mon père qui est sapeur-pompier au CIS de Noyers-sur-Jabron aussi depuis bientôt 25 ans. Donc, je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit et voilà, hein, de fil en aiguille, j'ai toujours été dans cet environnement, on va dire, pompier. Donc, quand j'ai eu mes 16 ans, l'âge requis pour entrer sapeur-pompier en France, je m'y suis mis et j'ai pas réfléchi et je regrette absolument pas mon choix.
Être pompier dans une zone rurale comme Noyers-sur-Jabron, ce n'est pas de tout repos. Quelle est l'ambiance présente dans la caserne ?
C'est vrai que au niveau de l'ambiance générale, c'est quand même quelque chose où on est très familial. C'est une petite caserne où on se connaît tous. On vit tous ensemble depuis très longtemps parce que c'est ce lien assez fraternel et de camaraderie qui nous lie chez les sapeurs-pompiers. Et après, pour vous dire sur votre question par rapport à la ruralité, c'est vrai que nous sommes un petit centre d'incendie et de secours de campagne. Mais c'est vrai que ça nous permet quand même d'avoir une certaine proximité et d'être au plus proche des habitants. Et cette proximité par rapport à nos habitants et cette camaraderie et cette fraternité, on la retrouve lors de notre fameux bal des pompiers qui se déroule le 13 juillet à Noyers-sur-Jabron.
Alors, vous nous avez parlé d'un bal des pompiers qui se déroulera à Noyers. Pouvez-vous nous en dire plus sur la date et l'heure de ce bal ?
Oui, bien sûr. Donc, ce merveilleux bal se déroulera le 13 juillet à Noyers-sur-Jabron, en face de la caserne, juste à côté de la salle des Béraux. Et on vous y attendra avec grand plaisir à partir de 20h.
Et ce bal des pompiers, qu'est-ce qui le rend spécial? Est-ce qu'il est différent d'un bal ordinaire? Est-ce qu'il a un thème particulier?
Alors, pour répondre à votre question, il faut savoir que, pour la petite histoire, le bal des pompiers de Noyers est bientôt devenu une institution, puisque ça fait plus d'une dizaine d'années maintenant qu'on fait des bals. Malheureusement, on a été freiné pendant 2 ans par la période Covid, mais cette année, on revient avec un thème qui est le thème médiéval. Donc, on vous attend tous déguisés. On le sera aussi. L'ensemble des sapeurs-pompiers Noyers qui offriront pour vous faire passer une belle soirée en été.
Pendant cette soirée médiévale, pouvons-nous nous attendre à différentes animations?
Au niveau des animations, on aura donc un DJ pour la soirée qui est en la personne de DJ Martin. Pour les connaisseurs, c'est celui qui a fait la musique pour la fête des brasseurs à Salignac, récemment de nos confrères du coup. On aura aussi au niveau des animations les costumes. On espère que vous viendrez le plus possible déguisés et costumés sur notre thème médiéval. On a aussi de prévu un spectacle de feu avec une troupe qui vient pour nous faire un spectacle de feu. Et voilà.
Et avec une belle soirée comme ça, je suppose que gustativement parlant, il y aura du choix.
Effectivement, au niveau des repas, nous allons avoir plusieurs choix à vous proposer. Tout d'abord, nous allons avoir un repas avec un menu fixé à 15€, avec dedans des pommes de terre, jambon braisé, salade, fromage, dessert. Dans ceci seront compris normalement un quart de rouge ou de rosé, selon les choix. Ensuite, nous aurons un côté barbecue grillade avec cette fois-ci saucisses, merguez, andouillettes et frites qu'on vous fera en sandwich, en barquette ou toute simple. Au niveau de la vaisselerie, on aura aussi une petite vaisselle très typique au niveau du repas avec une assiette en bois, la cuillère en bois qui peut nous faire rappeler vraiment ce côté médiéval. Et pour le dessert, si vous avez envie d'une glace, c'est délice. Donc un pâtissier et un glacier résident à Noyers-sur-Jabron viendra avec son stand nous faire goûter des glaces aux mille et une saveurs. Au niveau du repas sur réservation, nous serons sur un tarif de 15€ pour l'ensemble de ce que je vous ai annoncé récemment.
Avec tous ces mets qui seront présents à nous mettre sous la dent, est-ce qu'il y aura de quoi se rincer la bouche? Quelques boissons?
Il y aura pour les alcoolisés et non alcoolisés. Au niveau de l'alcool, nous aurons des bières. On aura aussi du vin rouge, du rosé ainsi que du champagne. Et pour les plus sages d'entre nous, il y aura des sodas classiques. Donc on sera sur de l'Oasis, Coca, Perrier, de l'Orangina, de l'Ice Tea.
Et pour finir, pour les réservations, comment pouvons-nous vous contacter? Vous avez un numéro de téléphone, quelque chose?
Alors oui, bien sûr, je vais vous laisser 2 numéros de téléphone. N'hésitez surtout pas à appeler dessus et nous prendrons vos réservations directement. Alors le premier sera le 07 57 63 62 53. Ou le second, le 06 72 34 79 65.
Eh bien, merci Valentin et rendez-vous donc le 13 juillet devant la caserne des pompiers à Noyers.
Digne, la cathédrale expose les reliques de Ganagobie.
Ces trésors sont prêtés par l'abbaye de Ganagobie pour la 13e exposition des archives départementales au sein de la cathédrale Saint-Jérôme. La cathédrale dignoise est ouverte aux visiteurs qui peuvent les admirer tous les jours jusqu'au 30 septembre 2022. Au micro d'Odile Frison, Maïna Masson-Lautier, conservateur en chef du patrimoine à la région, et Marie-Christine Braillard, conservateur honoraire, puis Jean-Christophe Labadie, directeur des archives départementales, en charge des antiquités et objets d'art des Alpes de Haute-Provence.
Maïna Masson-Lautier, je suis conservateur du patrimoine au service de l'inventaire au Conseil régional.
Marie-Christine Braillard, je suis conservateur du patrimoine honoraire. Donc j'étais conservateur départemental dans les Alpes de Haute-Provence jusqu'en 2015.
Une très belle exposition qui démarre aujourd'hui et qui va durer 3 mois à la cathédrale Saint-Jérôme. Trésor de reliques de l'abbaye de Ganagobie.
Oui, ça a été un grand moment de bonheur, à la fois de découverte d'objets et puis ensuite de rédaction du catalogue avec beaucoup de très beaux objets et beaucoup de documentation. Donc on a appris beaucoup, on espère apprendre beaucoup de manière agréable à tous ceux qui viendront voir l'exposition.
Et on a travaillé aussi énormément sur les archives, parce que les archives de Ganagobie sont très riches et sont très bien conservées.
C'est tout un travail pour réaliser ce livret qui a demandé évidemment beaucoup de temps avec les photos.
Alors les photos ont été réalisées par Frédéric Poverel qui est un photographe professionnel et qui travaille au service de l'inventaire au conseil régional. Donc on a photographié les œuvres in situ dans de très bonnes conditions puisqu'on nous avait sorti l'ensemble des objets et on a essayé de prendre un maximum de photographies pour documenter au mieux toutes les œuvres présentées à l'exposition.
Et donc, si on veut, les visites guidées, elles ne sont pas forcément faites. Il faut avoir
oui, guide. Oui, oui, la petite plaquette qui explique tous les objets. Hein. C'est parce qu'on a des cartels, c'est-à-dire des étiquettes à côté de chaque objet qui sont très simples. Donc, ce petit catalogue est un catalogue qui est distribué gratuitement, qui permet d'approfondir, parce qu'à lire, étant donné le travail... a été très important, donc c'est vrai qu'on ne peut pas les lire à côté des vitrines, mais après on peut approfondir chez soi.
Est-ce que vous, il y a des reliques reliquaires qui vous impressionnent plus que d'autres? Est-ce que vous avez...
Oui, on pourrait... Alors pour moi, la partie la plus étonnante pour moi et la plus riche en découverte a été sans doute la partie des objets du XXe siècle. Les reliquaires de cette période-là sont très peu connus. J'en connaissais assez peu et je trouve qu'on a de très beaux exemples ici, assez représentatifs, avec des saints qui sont malgré tout connus. Et les objets en eux-mêmes sont très beaux et sont en même temps datés, vraiment 20e siècle, donc très intéressant de ce point de vue-là. Voilà.
Alors pour moi, ce sont deux reliquaires qui viennent de l'ancien prieuré de Ganagobi, puisqu'on n'a absolument aucun objet qui vient du prieuré avant la Révolution française. Et ce sont deux reliquaires de Saint-Donat et Saint-Victor qui ont été sauvegardés par des habitants et qui, quand la Révolution terminée et le calme repris, les ont rendus au curé de Ganagobi qui ensuite les a remis aux moines de Hautecombe, c'est-à-dire la communauté, parce que l'histoire de la communauté est un peu compliquée, hein, puisque c'est une communauté de Marseille qui est partie en exil en Italie et qui ensuite est allée à Hautecombe et entre-temps sont devenus propriétaires de Ganagobi et sont revenus dans les années 92. Donc ces deux reliquaires en bois doré sont intéressants pour cela, puisque ce sont, comme je viens de vous le dire, les deux seuls objets de l'ancien monastère.
Est-ce que vous pensez que pour apprécier une telle exposition, on peut être athée quand même?
Bien sûr. Ils ont une valeur esthétique incontestable et si on apprécie ne serait-ce qu'un petit peu l'histoire, je pense qu'on a de quoi se régaler sans problème.
Ces objets donc ont été prêtés par l'abbaye de Ganagobi. Ils vont retrouver leur place à la fin de l'exposition.
Donc c'est vrai que c'est une occasion unique, je pense, de les voir, parce que l'abbaye a toujours une communauté de moines et donc qui vivent évidemment dans la clôture. Donc c'est la seule et unique occasion, je pense, de voir ces objets. Donc c'est vraiment une exposition à ne pas manquer.
Jean-Christophe Labadie, pour vous, c'est important de poursuivre les expositions dans cette cathédrale Saint-Jérôme à Digne.
Oui, en effet, alors pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'effectivement, ça fait maintenant 13 ans que nous présentons donc des expositions dans ce lieu. Ça permet donc, au lieu d'être ouvert pendant l'été, pendant les 3 mois, puis c'est une façon aussi de collaborer avec d'autres personnes, des scientifiques qui nous apportent leur expertise. Hein, donc vous avez pu rencontrer donc effectivement des co-auteurs de la publication et donc des co-commissaires de cette exposition. Et effectivement, c'est aussi une façon d'enrichir le patrimoine local, de mieux le connaître et de faire partager à tous ceux qui viennent visiter la cathédrale.
On rappelle les heures d'ouverture.
Oui, je vais rappeler. Donc effectivement, l'exposition est ouverte donc à partir du 6 juillet jusqu'au 30 septembre, tous les jours, hein, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, y compris les jours fériés, de 13h15 à 18h.
Gréou regarde la Provence.
La salle des gardes du château des Templiers s'est parée de paysages et scènes provençales. La fondation du musée marseillais Regarde Provence présente une série de tableaux des 19e et 20e siècles sous le titre Couleurs de Provence jusqu'au 28 août. Scènes de chasse, lavandières, farandoles, travaux des champs ou monuments, la Provence a inspiré les peintres et plus particulièrement les artistes du cru. Ainsi, Chabot, Pignon, Guigou, Ambrogiani, Cessot et plus loin dans le temps, Régnier, Jourdan, Maillan ou Verdillan, tous ont célébré la Provence avec bonheur. Guidant les visiteurs, le président fondateur de Regards de Provence, Pierre Dumont, présenter les différences de style, les thèmes, la lumière ou encore les couleurs plus vives qui marquent l'évolution du milieu artistique. À l'occasion de l'exposition marseillaise sur Lucien Jacques, le sourcier de Giono, en 2019, le maire de Gréoux, Paul Audan, a lié amitié avec les responsables de Regards de Provence, ce qui a permis cette exposition qui se prolonge tout l'été. Je vous propose de l'écouter ainsi qu'Adeline Dumont, qui dirige Regards de Provence. Paul Audan, vous êtes le maire de Gréoux-les-Bains et c'est en 2019 que vous avez connu le musée Regards de Provence.
Effectivement, c'est dans le cadre du cinquantenaire de la disparition de Jean Giono. Nous nous sommes rendus à Marseille découvrir le musée Regards de Provence. Il y avait là une exposition Lucien Jacques, le sourcier de Giono. Et bien sûr, ça a été un moment de plaisir de découvrir toutes ces œuvres. Et nous sommes allés également de l'autre côté au Mucem, c'est en face, découvrir l'expo Giono, puisque c'était le cinquantenaire de sa disparition. Et ensuite, grâce donc au musée Regards de Provence, ils nous ont confié l'exposition Lucien Jacques, sourcier de Giono, ici à Gréoux-les-Bains, dans ce même lieu emblématique du château des Templiers, dans la salle des gardes, pendant un mois. Donc pour nous, ça a été beaucoup de plaisir, parce que Lucien Jacques et Jean Giono, et plus particulièrement Lucien Jacques, fréquentaient Gréoux-les-Bains régulièrement.
Et pour cette exposition, il y a le mot, évidemment, qui est le mot-clé de l'exposition, c'est la Provence, et la Provence, vous l'avez au cœur.
Ben oui, nous sommes très attachés à notre identité provençale. Quand on s'occupe de tourisme et quand on est maire d'une commune thermale et touristique, pour nous, la Provence est un vecteur d'abord de communication, et puis on y vit si bien, on est très heureux d'y vivre. Voilà. Et puis, il y a le nombre d'artistes, paysagistes marseillais qui... couvre cette identité provençale, c'est remarquable, avec des œuvres, c'est un régal. D'un côté, le 19e siècle, de l'autre, le 20e, beaucoup plus lumineux, mais il y a des tableaux, c'est vraiment remarquable. Les styles sont différents, tant au 19e qu'au 20e, beaucoup plus du 20e. Et le même peintre a quelquefois différents styles sur différents tableaux, ce qui est quand même remarquable. Voilà, c'est beaucoup de plaisir d'accueillir à Gréoux-les-Bains donc cette collection du musée Regards de Provence. Et surtout, je tiens à remercier la directrice qui est à mes côtés et son président fondateur, Monsieur Dumont, pour consolider ce partenariat. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ose espérer que cela va permettre de creuser un sillon et pour les années futures de retrouver des collections du musée Regards de Provence dans ce château des Templiers, sur lequel nous nous penchons régulièrement actuellement, parce que nous allons engager des travaux de restructuration, de mise en sécurité et d'accessibilité, pour avec également aussi une mise en tourisme de ce grand patrimoine du XIVe siècle avec un partenaire. Et là, il va y avoir vie dans ce château et nous allons faire évoluer les expositions, un haut lieu de culture sur ce territoire.
Vous avez également signalé que la salle des gardes était sécurisée, ce qui est important pour les exposants.
Oui, absolument. Alors, nous avons opéré la refonte complète de l'éclairage, ce qui est important, ça valorise l'ensemble des œuvres. Mais également, nous avons mis en vidéo protection tous ces espaces, ce qui est une excellente chose. Il faut sécuriser les œuvres.
Vous l'avez dit, Adeline Dumont est à nos côtés. Vous êtes la directrice de Regards de Provence. Vous avez un rôle qui est certainement envié par beaucoup de conservateurs et d'artistes.
Écoutez, oui, on est tous passionnés. C'est vrai qu'on a la chance de pouvoir valoriser une collection qui avoisine les près de 1000 œuvres autour de Marseille, la Provence et la Méditerranée, du fin 18e jusqu'à l'art contemporain. Et on voit aujourd'hui dans cette exposition Couleurs de Provence près d'une quarantaine de toiles, de paysages provençaux, de à peu près 22 artistes réunis, 19e et 20e siècle. Et c'est vrai que c'est une chance de pouvoir trouver des municipalités
idées et des maires dynamiques tels que Monsieur Audan qui puissent faire voyager nos œuvres et faire profiter d'une partie de notre collection aux résidents et aux touristes de Gréoux-les-Bains pendant la période estivale. C'est vraiment important d'allier tourisme et culture. Et ici, c'est un très bel écrin dans ce château classé monument historique. Et pour nous, on ne pouvait pas rêver mieux que pour sublimer toutes ces toiles.
Et puis, vous l'avez signalé également, Regard de Provence sort des fois de la cité phocéenne et vous allez même jusqu'à l'étranger.
On va même jusqu'à l'étranger, à Monaco, au Liban, au Maroc, en Finlande, en Italie, en Espagne et j'en passe d'autres. Et c'est vrai que c'est une chance. On fait beaucoup d'ouvrages. On en est à 77 expositions à Marseille et chacune de nos expositions donne lieu à un ouvrage de notre collection, mais aussi d'œuvres qui nous sont prêtées par d'autres musées, des galeries, des centres d'art, des collections privées. Et ce sont vraiment des outils de valorisation et de communication et de connaissance et de partage de savoir. Et ce qui permet de nous faire connaître hors les murs, en France ou ailleurs. Et c'est un privilège de pouvoir exporter notre savoir-faire et nos œuvres.
Sur cette exposition à Gréoux-les-Bains, vous avez un coup de cœur 19e et un coup de cœur 20e.
Moi, j'aime beaucoup la Sainte Victoire de Guigou, où on voit deux paysans face à la Sainte Victoire. Et j'aime beaucoup Auguste Chabot, la Montagnette, parce qu'on voit une Montagnette qui est bleue. Et c'est ça l'originalité, le côté novateur des artistes du XXe siècle et qui ont voulu complètement un renouvellement et refouler l'académisme et le classicisme et aller dans l'aventure et dans l'instantanéité et l'instinct.
Qui vive ! Nouvelle saison du Théâtre Durance.
De nombreux spectacles surprenants, inclassables et totalement innovants. C'est ainsi que l'on peut décrire la saison 2022-2023 du Théâtre Durance. Dernièrement, l'équipe du Théâtre de Château-Arnoux-Saint-Auban avait rendez-vous avec la presse pour présenter une saison qui promet d'être très rythmée et à la portée de tous. Pour les organisateurs, la programmation 2022-2023 va redonner un nouvel élan au plaisir de vivre la scène, d'où l'idée de l'accroche optimiste en deux mots sur les affiches et les programmes qui vivent. Des projets se déploient dans les différents espaces du théâtre, salles de spectacle, scènes de répétition ou encore studios d'enregistrement, mais également sur un territoire qui s'étend bien au-delà des murs de la structure jarlandine. Marie Rouge, responsable de la communication, et Élodie Prel, directrice du Théâtre Durance, répondent aux questions de Chris Alessandri.
Marie-Rouge, toute une démarche partenariale qui a beaucoup d'importance et qui se développe de plus en plus.
Oui, en fait, c'est un peu le fer de lance ou la méthode que nous privilégions dans toutes les actions que nous menons, qu'elles soient toutes petites ou à plus long cours avec des territoires ou avec des partenaires associatifs. C'est vraiment important pour nous que chacun arrive avec ce qu'il est et puis qu'on puisse trouver ensemble les choses que nous allons pouvoir inventer, construire. Ça nous amène, nous, à nous déplacer dans notre manière de faire, de nous appuyer sur les autres. Et ça amène les autres aussi à se déplacer dans leur manière de faire. Et l'idée, c'est de trouver ensemble de nouvelles solutions, en tout cas les projets les plus justes pour chaque endroit, chaque territoire, chaque public.
Sur le programme, il y a une carte très représentative de votre rayonnement et des actions que vous menez également. Vous avez souligné cette carte d'ailleurs et son importance.
Oui, on s'est dit que finalement, si on ne pouvait pas matérialiser le territoire en parlant du projet, il manquait quelque chose parce que son assise, c'est les gens, c'est ce territoire-là, les gens qui vivent là. Et le meilleur moyen finalement de représenter à la fois tout ce que réalise le théâtre en dehors des spectacles qui sont la partie la plus visible de notre activité, c'était aussi de poser cette carte, d'y mettre les différentes manières qu'on a d'aborder ce territoire, soit quand les spectateurs viennent avec des bus au théâtre, soit quand nous allons dans les communes avec les échappés, mais aussi tous les projets d'année avec des établissements scolaires, des associations, et on a essayé de matérialiser tout ça. Alors c'est un peu foisonnant, mais c'est assez représentatif de toutes les choses qu'on peut conduire au cours d'une saison.
l'autre côté, il y a un sacré travail d'investigation. Il y a du relationnel, il y a du contact. La démarche, il faut aller à l'encontre des communes.
Oui, c'est la plus grosse partie du travail, c'est cette chose-là, c'est d'essayer d'identifier les personnes qui vont être relais pour nous, d'aller à leur rencontre, de comprendre qui ils sont, de prendre le temps aussi d'imaginer des choses ensemble, de les faire vivre. C'est forcément la chose la plus chronophage si on parle de temps de travail, mais c'est surtout la chose la plus importante. Pour faire vivre ce qui nous anime, il faut qu'on puisse le partager déjà avec nos relais et puis ensuite avec les habitants.
Élodie Prel, une accroche qui définit complètement la nouvelle saison, j'ai l'impression.
Qui vivent, c'est le titre du spectacle concert de Bruno Alary. Et j'avais beaucoup aimé l'explication qu'il en avait donnée, qui était en fait une lecture à double sens, à la fois le point d'exclamation qui amène un élan et une énergie et quelque chose de très positif et de très ouvert. Voilà, la joie retrouvée et on espère qu'elle va durer. Et en même temps, être sur le qui-vive, cette fameuse expression que vous connaissez bien, c'est aussi non pas être sur la méfiance ou la défiance, mais c'est être en alerte et ne pas se poser, c'est être en mobilité. Et ça, vous savez que depuis longtemps que la mobilité, c'est quelque chose qui nous anime, on bouge toujours un petit peu et on est une grosse maison. Des fois, on n'est pas super réactif, mais on essaie quand même de pouvoir répondre au maximum à l'évolution de la société parce que nous sommes vraiment inscrits dans la société. Voilà, on n'est pas à côté, donc on est sur le qui-vive, oui.
Le théâtre du Rance, on ne peut pas dire que vous aimiez vraiment la routine, c'est pas quelque chose qui vous ressemble. Vous aimez le changement et pour cette nouvelle saison, pas mal de changements sur les spectacles et puis sur les tarifs aussi.
Alors, le changement dans la continuité, si je puis dire, j'aime pas les ruptures. C'est pas qu'on aime le changement, c'est qu'on améliore, on essaie en tout cas d'être le plus juste en réponse, le plus justement possible, non pas aux attentes et aux demandes, mais en tout cas à ce qu'on perçoit, nous, du public et des spectateurs. Donc oui, ça implique des changements sur une programmation parce que les artistes aussi évoluent dans leur sujet et dans leurs propos et dans leur forme. Donc ça, on essaie d'en rendre compte. Et puis, on essaie aussi de travailler sur les freins qui empêchent les gens d'avoir accès au spectacle. Nous, on est assez habité par le fait qu'on remplit une mission de service public qui est de rendre accessible l'art et la culture au plus grand nombre. On voit ce que ça apporte aussi en matière d'émotion et même de réflexion et de pensée et que c'est extrêmement nourrissant. Du coup, on essaie de travailler sur quels sont les freins que l'on peut analyser aujourd'hui. Alors, il y a des freins économiques qui sont effectivement le prix de la place. Donc ça, vous le disiez, on fait évoluer notre grille tarifaire tous les ans, plutôt vers le moins cher que vers le plus cher, contrairement à l'évolution du coût de la vie. Et je peux vous dire qu'en fait, nous, on la prend de plein fouet aussi hein, dans l'accueil des spectacles. Ça augmente beaucoup. Mais on a fait vraiment ce choix volontaire de ne pas augmenter les places de spectacle, mais au contraire même de les baisser. Donc ça, c'est un geste important. Par exemple, les jeunes de 13 à 25 ans, ils peuvent venir voir tous les spectacles de la saison pour le prix d'une place de cinéma. Moi, je trouve que ça vaut le coup d'être noté.
Alors bien sûr, Élodie Prel, je ne vais pas vous demander de choisir quelques-uns de ces spectacles pour nous en parler, parce qu'ils sont inclassables. Mais il y a une large part, une porte que vous ouvrez à la musique classique pour cette nouvelle saison.
Alors, à la musique en général, et effectivement, cette année, nous ouvrons à la musique classique, ce que l'on n'a pas fait, en tout cas, peut-être Robert un peu, mais moi, pas depuis que je suis arrivée, pour plein de raisons, j'avais envie de travailler d'autres esthétiques avant d'arriver à la musique classique, alors que j'aime beaucoup ça, hein, je tiens à le répéter. Il y a aussi des raisons économiques, c'est que il y a des petites formes, mais les grands orchestres, c'est quand même... c'est un coût, hein. Vous avez 40 musiciens sur scène, il faut bien évidemment tous les rémunérer. Donc c'était aussi des concerts qui étaient un peu hors de notre portée financièrement, ça n'est moins le cas aujourd'hui. Donc du coup, on va ouvrir à la musique classique avec l'Orchestre National Avignon-Provence qui va nous proposer un très très beau concert qui sera pas au théâtre mais qui sera au Palais des Congrès à Digne un dimanche après-midi à 18h. Donc vraiment pour permettre aussi des gens qui veulent pas sortir le soir de pouvoir accéder à ce magnifique concert qui nous sera offert par l'Orchestre d'Avignon. Et puis aussi une petite forme opératique avec un quatuor de cordes qui est mondialement connu, hein, qui tourne dans le monde entier, et un chanteur haut de contre. Je ne rentrerai pas dans les détails du spectacle, mais voilà. Et de la musique toujours encore, avec des concerts, avec En attendant les escapades, notre rendez-vous qui fait un peu le contrepoint des escapades, l'hiver, au théâtre. Et puis de la musique partout dans les spectacles, hein, parce qu'en fait, la musique, elle est dans le théâtre, elle est dans la danse. Des fois, c'est des ciné-concerts, des BD concerts, ça se mélange, enfin il y a la musique, il y en aura vraiment beaucoup, beaucoup. Voilà, la musique, le son, l'écoute, voilà, apprendre à écouter, c'est important pour moi.
Carzou expose Jean-Marie Perrier, Manosque, Back to the 60s.
Johnny, Sylvie, Dutronc, James Brown, les Chaussettes Noires, les Beatles, les Stones et bien d'autres ont bercé la jeunesse de toute une génération par des sons et rythmes nouveaux. Un ouragan venu d'Amérique et d'Angleterre a soufflé sur la France avec un centre de gravité radiophonique Europe numéro 1 où Daniel Philippaki produisait « Salut les copains » a changé le monde de la musique en France. Les chansons restent et cette période a eu un témoin privilégié, le photographe Jean-Marie Perrier. Il a côtoyé les vedettes de l'époque, les fixant dans la rue ou dans un studio avec la même créativité que celle qui s'exprimait sur disque, en texte et rythme. Jean-Marie Perrier est le parrain des nuits photographiques de Pierre Vert à la fin du mois, mais à Manosque, la Fondation Carzou célèbre d'ores et déjà cette époque en exposant des photos aujourd'hui devenues improbables. Mick Jagger dans la rue et les Stones dans un train, Johnny et Sylvie tendrement endormis, Clo-Clo Claudette en danse trance, Paul Naref cheveux raides et sans lunettes, les Beatles autour d'un escabeau ou encore Dutronc qui aime les filles, c'est sûr, et d'autres images mythiques, dont la photo du siècle, qui réunit presque tous ceux qui faisaient le hit parade de l'époque. Jean-Marie Perrier les a tous eus dans son objectif, fixé pour l'éternité. Avant sa venue à Pierre Vert, l'exposition de Carzou nous met en appétit de ce que sera le Festival des Nuits de Pierre Vert 2022. Pour l'instant, en vous invitant à une visite nostalgie pour certains, découverte pour d'autres, écoutons le président des Nuits, Stéphane Kosman, puis Sandra Faure pour la DLVA. Stéphane Kosman, président des Nuits photographiques de Pierre Vert, c'est une époque et un plateau particulier que vous présentez à la Fondation Carzou.
Tout à fait, on aura la chance d'avoir avec nous Jean-Marie Perrier. Pour ceux qui sont un peu plus jeunes, ça représente peut-être des posters un peu égarés dans des greniers. Mais en tout cas, pour nous, notre génération, la génération de ma maman, c'est « Salut les copains », c'est toutes les photos de Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, les Stones, les Beatles, très jeunes.
C'est aussi des photos particulières avec une esthétique particulière.
Oui, alors dans le choix de l'exposition réalisé par Frédéric Babin et François-Xavier Emery, ils ont décidé de choisir donc des images qui seraient très difficiles à recréer aujourd'hui. C'est-à-dire le fait que Jean-Marie puisse téléphoner à Johnny et dire viens sur les Champs-Élysées, on va faire une photo au milieu des voitures. Ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui serait très difficile à reproduire avec une star du moment.
Pareil pour Mick Jagger, par exemple, aussi.
Pareil pour Mick Jagger, des images en toute simplicité, très bon enfant, et voilà, c'est toute une époque, toute une époque.
Une exposition qui va durer 3 mois à la Fondation Carzou jusqu'à la fin septembre et qui annonce bien sûr le Festival des Nuits photographiques de Pierre Vert.
Tout à fait, alors une exposition, encore une fois, je le disais tout à l'heure, on est très content d'investir la Fondation Carzou. Puisque le photographe exposé, qui est en général le parrain ou la marraine du festival, on a la possibilité d'avoir cette exposition pendant 3 mois. Et ça, on y tient, puisque les photographes qui viennent à Pierre Vert exposent 4 jours.
À vos côtés, un des partenaires essentiels de cette opération et de ce festival, c'est l'agglomération manosquine. Sandra Faure, vous êtes la vice-présidente de DLV Aglo. Ça n'est pas votre génération qui est sur les murs?
Non.
Qu'est-ce que vous en pensez?
J'en pense que c'était du coup une génération qui correspond plus moi à celle de mes parents, mais dans lequel j'ai un petit peu baigné finalement, parce que ces artistes-là, je les ai entendus à la maison tout simplement quand j'étais petite, et c'est un plaisir de les découvrir, de voir comment ils étaient beaux, et puis c'est justement, je trouve cette nostalgie qu'on peut avoir, surtout en ce moment, de cette liberté qu'il y avait à cette époque et que j'envie terriblement à mes parents, parce que je trouve que finalement, on l'a perdue. Et c'est merveilleux de pouvoir l'avoir sur ces clichés, de voir ces couleurs, de voir la possibilité qu'il y avait, comme vient de dire Stéphane, de prendre un artiste ultra connu dans un lieu public sans les problèmes de sécurité, sans tout ce qu'on peut avoir maintenant autour et qui va nous restreindre finalement dans ce côté artistique. Et quel plaisir de découvrir tout ça.
Ça veut dire aussi qu'il y a une grande créativité du côté des artistes. Et on se demande qui est la vedette, si c'est Mick Jagger, si c'est La Pomme ou si c'est Jean-Marie Perrier, quoi.
Exactement. Et on ne sait pas où regarder finalement, parce qu'il y a une mise en scène qui est fabuleuse. Et puis des fois, on s'aperçoit de petits détails comme ça anodins, alors que maintenant, on va être dans la retouche photo, on va être... Enfin, c'est terrible. Et puis là, on est sur l'instant, c'est fabuleux.
Vous êtes comme moi impatiente de voir ce témoin des yéyés cet été ?
Oui, je suis très impatiente de faire la connaissance de Jean-Marie Perrier et ça sera un bonheur de le rencontrer.
On a aussi un jury assez glamour présidé par Anne Parillo.
C'est la fin de ce magazine, merci François. Je vous informe que Force 7 s'accorde quelques jours de vacances, mais que Fréquence Mistral continue de couvrir l'actualité en région pendant cet été. Restez bien à l'écoute de nos stations.
Absolument, merci Olivier pour la régie. Pour l'heure et pour clore ce magazine, nous vous invitons à aller voir l'expo de Jean-Marie Perrier à Manosque sur les années 60 et une invitation de notre part en musique. Vas-y Johnny.
Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur et vous faites rafleurir tous mes rêves de bonheur. Je me souviens des soirs de danse, jour contre jour, des rendez-vous de nos vacances quand nous faisions les fous. Souvenir, souvenir de nos beaux jours de l'été lorsque nous partions cueillir mille fleurs, mille baisers. Et pour mieux garder dans ma tête les joies de la belle saison. Souvenir, souvenir, il me reste nos chansons. Souvenir des départs dans le matin où le soleil semblait rire tout le long de nos chemins. Nous n'avions au fond de nos poches qu'un peu d'espoir, mais nous partions comme Gavroche, le cœur assez bavard. Souvenir, souvenir, vous revenez dans ma vie, illuminant l'avenir lorsque mon ciel est trop gris. Et pourtant ça j'en suis certain. Souvenir, souvenir, vous resterez mes copains.